ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma ta bonne humeur m'enchante.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné qui chante, l'émission qui aime autant la chanson que le cinéma et réciproquement. Notre programmateur musical du jour est d'abord un amoureux des mots. À l'origine, et c'est bien normal, il fut un soupirant. Ensuite, il a fait parler Yo-Yo, Maria, Séverine dite Belle de Jour, Lisa, Julie la pot de colle, Carmen, Valmont, Milou, Cyrano et même Danton. Il a ironisé sur le charme discret de la bourgeoisie, cherché le fantôme de la liberté, puis ceux de Goya, pour finalement dénicher cet obscur objet du désir. On l'a vu également avec un papillon sur l'épaule, s'écrier « Sauf qui peut la vie !» tout en attendant avec impatience le retour de Martin Guerre d'abord, celui de Casanova ensuite. Mais tel un hussard sur le toit, ou tel le roi des aulnes, il a mesuré l'insoutenable légèreté de l'être et sait désormais se mettre à la meilleure place, à l'ombre des femmes donc. Aujourd'hui, nous recevons l'écrivain, scénariste, parolier, bref, le conteur Jean-Claude Carrière. Au cours d'une promenade musicale enchantée, nous entendrons, grâce à lui, Carmen. Stella.
Toi, ô mon amour.
Delphine.
Le besoin de marcher pour aller au trépas.
Trois petites notes de musique et bien d'autres à venir.
Laurent Delmas présente Ciné qui chante sur France Inter.
Enchanté, Jean-Claude Carrière, et bienvenue.
Et bonjour.
Alors, on va un peu déroger à la règle de cette émission avec vous, parce que on ne vous a pas demandé votre programmation, nous l'avons faite, et nous vous la proposons. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que derrière le scénariste, le romancier, l'écrivain, il y a aussi, et on le sait peut-être moins, on s'en est moins aperçu, le parolier Jean-Claude Carrière. Alors, on a voulu revisiter avec vous votre carrière de parolier. On ira aussi dans des lieux où vous n'avez pas écrit les paroles notamment, où vous avez écrit le scénario, mais où il y a des chansons. Bref, on avait envie de vous confronter à cet univers de chansons qui a été et qui est toujours le vôtre, qui est tellement le vôtre encore, que dans le dernier, le nouveau, le premier d'ailleurs, CD de Françoise Fabian, eh bien la seconde chanson, elle est signée Jean-Claude Carrière.
Oui.
Voilà.
Vous savez, c'est la chanson qui m'a amené à me décider à vivre de ma plume. Parce que j'avais la moitié des paroles de la chanson du film de Tati, Mon oncle.
Nous y reviendrons.
Et cette petite moitié, alors que j'étais au service militaire à la guerre d'Algérie, quand je suis revenu, m'avait rapporté assez d'argent pour payer mes dettes. Qui étaient grosses. Et je me suis dit, mais c'est peut-être un métier au fond auteur.
C'est comme ça que c'est venu.
Oui, j'allais être professeur, tout m'y destinait. Ouais.
Bon.
Et
ben,
ouais.
Bon,
et la faculté a perdu.
Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Écoutez, on écoute tout de suite cette merveilleuse, moi je trouve, chanson qui s'appelle Passage. La musique est d'Alex Baupin, les paroles sont de vous, Jean-Claude Carrière, et c'est Françoise Fabian qui chante.
La mouche, je vole. Maman ne me l'avait pas dit. J'ouvre mes ailes, je décolle. Je les referme et j'atterris. Ah ah, dit la carpe, je bâille. Que c'est ennuyeux, un étang. L'eau qui glisse sur mes écailles n'est jamais la même, et pourtant. Ah ah, dit la rose, je pique. et je suis douce en même temps. C'est ça qu'on appelle érotique. Tu veux me cueillir, sois prudent. Je chante, mais personne n'y prend plaisir. Ma voix devient intéressante quand il est l'heure de mourir. Ah ah, dit un ange, je passe. Je ne veux pas vous déranger. Le ciel est haut, la terre est basse. Je me suis un peu égarée. Ah ah, dit la terre, je tourne. Les hommes ne l'avaient pas cru. Et tout ce qui sur moi séjourne, un de ces jours n'y sera plus. La terre, je tourne. Les hommes ne l'avaient pas cru. Et tout ce qui sur moi séjourne, un de ces jours n'y sera plus.
Jean-Claude Carrière, le 30 juillet dernier, Françoise Fabian était assise à votre place et elle nous disait à l'époque tout le plaisir qu'elle avait eu à vous commander cette chanson, demander pour son album.
Oui, absolument. Je l'ai écrite pour son album et elle en a fait faire une bossa nova, comme
absolument,
vous avez entendu.
Par Alex Baupin, formidable.
Elle chante très très bien. Elle chante comme une vraie pro, mais enfin, même mieux. Sa voix est très très bien posée et elle a ce charme de incomparable qu'elle a dans la vie.
Mais ce n'est pas une rencontre nouvelle pour vous, Françoise
Fabian.
Non,
c'est une comédienne que je connais depuis longtemps. On a travaillé plusieurs fois ensemble dans Le Voleur de Louis Malle en particulier et surtout dans Belle de Jour de Buñuel, où elle jouait une pensionnaire importante de la maison, de la maison Anaïs.
Nos auditeurs peuvent évidemment podcaster, s'ils ne l'ont pas entendu, l'émission avec Françoise Fabian et Alex Baupin. Juste un mot quand même sur l'art de la chanson, l'art de la parole dans les chansons, c'est l'antithèse du scénario, la chanson. C'est écrire en très très peu de mots une histoire presque ferme, enfin aboutie.
Pas mal travaillé avec Juliette Gréco, qui est une interprète que j'admire, que je mets très haut, et un jour elle m'a demandé, on avait tout un disque ensemble.
Magnifique disque.
Oui, et elle m'a dit, une chanson, il faut qu'il y ait tout en 3 minutes, au plus. Tout, le décor, les personnages, l'histoire, l'ambiance, le ton, tout, débrouille-toi. Mais il faut que tout y soit. Cela dit, avec Gérard Joannès, qui hélas nous a quittés, et elle, les après-midi de travail chez eux à Verderolles, c'est parmi les plus beaux souvenirs de ma vie. Vraiment, c'est lui au piano et elle et moi, rien que tous les trois, c'était splendide.
Vous nous rappelez le titre de cet album que vous avez fait avec elle?
Un jour d'été et quelques nuits.
Titre merveilleux. Mais vraiment, je le conseille à nos auditeurs parce que la rencontre entre vous et Gréco était une belle, très, 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 très belle rencontre. Alors, vous évoquiez tout à l'heure un film, Mon oncle, de Jacques Tati, évidemment, 1958. Il n'y a pas de chanson dans ce film, il y a de la musique.
Il y a de la musique et sur une des musiques, on m'a demandé, on avait d'ailleurs travaillé avec Boris Vian d'ailleurs, et puis ensuite après avec Henri Comté qui était un parolier. Donc j'ai fait la moitié des paroles de la chanson qu'il faisait bon chez mon oncle.
Exactement.
Qui porte le même titre que le film, qui n'est pas dans le film. Mais je touche un tout petit peu d'argent chaque fois que le film passe, parce que nous avons le même titre. C'est très curieux. J'ai passé mon examen à la SACEM.
Bien sûr.
Vous savez, on vous met dans une pièce, on vous donne un sujet, vous avez un dictionnaire, et vous avez temps pour écrire. Le sujet qu'on m'a donné était, j'oublierai jamais, La vie nous sépare. Voilà. Alors il faut faire une chanson.
Et vous avez gardé cette chanson?
Non, je ne l'ai pas gardée. Peut-être dans un coin. Non, je ne crois pas.
Bon, pour l'heure, vous allez toucher un peu d'argent parce qu'on va diffuser maintenant la chanson Mon oncle avec un petit extrait. C'est toujours difficile de prendre un extrait de Tati parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que les dialogues ne sont pas rois dans ces films. Mais il y a un petit extrait du film puis la chanson ensuite.
Mais c'est le divan.
Eh oui.
Oh non, non, non et non. Ça ne peut plus durer. Ça devient ridicule. C'est un mauvais exemple pour Gérard.
Oh, écoute.
Écoute quoi? Psst. Enfin, son oncle ici, son oncle là. Enfin, quoi?
Oui, en somme, tu es jaloux.
Quoi?
Oui, tu es jaloux de lui.
Jaloux, moi?
Oui.
Non, dis, regarde-le.
Oh, tout de même, faut être juste.
Il faut qu'il parte. Oui. Hulot, Pichard a besoin d'un bon représentant en province. Vous ferez admirablement l'affaire. Ma décision est prise.
Qu'il est bon le temps des vagabondages, des courses, des cris, des terrains sans loi. Qu'il est doux le jeu des petits voyages, quand mon oncle dit « Viens donc avec moi ». Ah, qu'il fait bon près de mon oncle, on va faire un petit tour parmi les rires des faubourgs. On va dans les sentiers des écoliers. Moi je prends dans sa grande main la clé du bon temps et la clé des champs. Je partage avec les copains un coin de printemps. On déniche des quartiers lointains remplis de jeux d'enfants et plein de rêves blancs. On se perd dans le chantier voisin avec le régiment des gardements. Ah, qu'il fait bon près de mon oncle, la bride sur le cou, le cœur battant, les cheveux fous, deux gosses émerveillés vagabondent tout le long des sentiers des écoliers. Mais nous n'irons plus tirer les sonnettes, mon oncle est parti emportant mes joies. Et le souvenir tourne dans ma tête comme le manège des autres fois. Qu'il faisait bon près de mon oncle, je poursuis le chemin où nous allions main dans la main. Je poursuis le chemin des galopins. J'ai gardé comme une chanson la belle saison des lointains jeudis. J'ai perdu comme une chanson mon meilleur ami. Balançoire et jeu de saute mouton, bataille de la rue, qu'êtes-vous devenus? Où sont-ils dans la vieille maison, les rires familiers, presque oubliés? N'attachez pas d'importance à la trace des pas du promeneur qui n'est plus là. Ce n'était qu'un passant du dimanche. Ce n'était qu'un passant près d'un enfant.
Nous écoutions la chanson du film Mon oncle, pour précisément la chanson qui a été tirée de la bande originale du film. Elle a été composée par Franck Barcellini et co-écrite par Jean-Claude Carrière.
Mmh. Et Henri Conté,
mais vous me disiez que vous ne vous souveniez plus.
Non, je me souviens qu'à la fin, c'est moi qui ai trouvé le mot promeneur. Nous cherchions un mot. Il fallait un mot de trois syllabes pour, ouais. Et j'ai proposé, parfait, m'a dit Conté. C'est fait. Conté qui était beaucoup plus âgé et expérimenté que moi à l'époque.
C'est ça la chanson aussi, c'est l'art du comptage.
Oui. Ah ouais, il faut y avoir un nombre de pieds, bien entendu.
Évidemment. Là, naturellement. Donc ça, c'est quand même un sacré problème par rapport à scénario, c'est autre chose, hein. On est bien d'accord.
Non, mais j'ai toujours été, on m'a éduqué avant ça dans la prosodie française. Je suis assez bon.
C'est vrai.
J'ai fait quand même 150 vers de Rostand dans le Cyrano de Rapneau.
Il paraît.
Personne s'en est rendu compte. Aucun Rostandien.
Il n'y a pas eu de plainte.
Non, il n'y a pas eu de plainte.
Ça prouve votre habileté, effectivement, versificatrice. On va passer maintenant à un tout autre objet sonore, si je puis dire, et une autre intervention de votre part. Vous allez m'en dire un peu plus, mais on va peut-être d'abord écouter cet extrait de La tragédie de Carmen de Peter Brook, mise en scène en 1983, qui était d'abord mis réellement en scène sur scène au théâtre, et puis qui a donné lieu à 3 films, et on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. On écoute tout de suite ce morceau.
Mais là, je ne suis pas pour grand chose. Hein.
Mais oui, mais on va en parler quand même. On va dire pourquoi. Tout de suite, l'amour est un oiseau rebelle, évidemment.
L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle si lui convient. Menace aux prières, l'un peut le bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Il est là, tout autour de toi, vite, vite, il vient, s'en va, puis il revient. Tu crois le tenir, il t'évite, tu crois l'évite, il te tient.
Alors, Jean-Claude Carrière, soyons clairs, je ne vous attribue ni la nouvelle de Prosper Mérimée, ni le livret de Meillac et Alévi,
mais ni le chant.
Ni le chant. Alors, qui est d'ailleurs chante. Là, c'est Zeva Gall, je crois entend. Oui. Mais il y avait aussi Hélène, trois chanteuses. Hélène Lavaudan et Eva Sorova. Oui. Pourquoi 3 chanteuses sur une seule Carmen?
Si on veut jouer tous les soirs, il faut 3 chanteuses. Elles ne peuvent pas. L'effort est tel que c'est comme à l'opéra d'ailleurs. On ne peut pas jouer 3 soirs de suite.
Mais
c'est
impossible.
On peut jouer 2 fois par semaine, parce que ça demande un gros effort vocal. Hein. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très difficile à chanter. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous le savez, ça s'appelle la habanera. La habanera, ça veut dire de la Havane.
Oui.
Tout à l'heure, vous parliez de Bossa Nova pour François Fabien, ça c'est une salsa. Là, il a carrément piqué, Bizet, et une musique cubaine. C'est si on y songe, c'est tout à fait ça.
C'est tout à fait
adapté,
ça.
Merveilleusement adapté, parce que et le travail que nous avons fait, nous l'avons fait à 3 avec Peter Brook et Marius Constant, qui lui a fait la réduction musicale d'une manière géniale. Sans Marius, on n'aurait pas pu faire ce spectacle. C'était impossible.
Mais alors vous, quelle a été votre intervention?
Alors mon intervention a été au niveau du livret.
Oui.
C'est-à-dire que de trouver. Des scènes et quelques phrases pour Lila Spacia, pour les personnages qui parlent, etc. Et même pour la scène du mariage. Moi, j'avais passé une partie de mon adolescence à Montreuil-sous-Bois, où j'avais connu beaucoup de gitans. Il y avait un camp de gitans qui était de réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait venir des gitans de Montreuil qui ont passé une journée avec nous pour lui montrer les rites d'un mariage gitan au Bouffe du Nord. C'était tout à fait épatant. C'est une aventure formidable. Cela dit, je n'ai évidemment pas réécrit les paroles de Bizet.
Mais
quelques paroles de dialogue, oui.
En nous plongeant dans votre filmographie, mais aussi donc dans l'ensemble de votre œuvre, nous avons trouvé quelques perles en matière de chansons, et dont celle-ci. Alors écoutez, je vous propose juste d'en donner le titre, « Quoi de plus beau qu'une marche militaire ?» Je ne dirai pas l'interprète, nous allons l'écouter ensemble. Petit jeu pour nos auditeurs, trouver qui chante, et on se retrouve tout de suite après.
Je connais rien de plus beau qu'une marche militaire. Je connais rien de plus beau que le bac à danser. Je connais rien de plus beau que la trompette guerrière. Je connais rien de plus beau que le 14 juillet. Moi, dès que j'entends Rataplan, j'en ai des frissons dans le corps. Je pourrais être la femme d'un sergent ou la fille d'un tambour-major. Je connais rien de plus beau qu'un régiment qui passe avec ses petits pompons et ses galons en or. Comme on doit être fier quand l'ennemi trépasse, y a-t-il rien de plus beau qu'un monument aux morts? Ah, que les soldats sont heureux, je dois dire que je les envie, de défendre après nos aïeux le sol sacré de la patrie. Je connais rien de plus beau qu'un vrai légionnaire. Ça sent le sable chaud, c'est viril, c'est musclé. Moi j'ai la larme à l'œil et le cœur qui se serre quand je les vois descendre les Champs-Élysées. Pour un homme digne de ce nom, c'est vraiment le plus grand bonheur que de souffler dans un clairon et de mourir au champ d'honneur. Mais malheureusement, les marches militaires, à l'époque atomique, que ne survivront pas. On n'imagine pas une marche nucléaire. Plus besoin de marcher pour aller au trépas.
Difficile, Jean-Claude Carrière, de ne pas reconnaître la sublime voix de Delphine Seyrig sur vos mots, avec une musique de Francis Seyrig,
son frère,
absolument. Donc cette chanson s'appelle, je le répète, « Quoi de plus beau qu'une marche militaire ?» Elle date de 1970. Elle est sur un 45 tours sur lequel il y a, en face B, une merveilleuse chanson, mais alors tendre, vraiment très jolie, qui s'appelle « Une fourmi et moi », dont je rêverais qu'elle soit d'ailleurs reprise par Françoise Fabian, par exemple.
Je pense que c'est une chanson qui lui irait très bien.
On lui suggérera ça un jour. Mais alors, vous, l'ami, le fervent admirateur du sabre et du goupillon, vous, le collaborateur de Louise Buñuel, qui pour cela même avait creusé son sillon avec lui, franchement, vous êtes donné à cœur joie avec cette chanson.
Oui, il y a la phrase, je ne connais rien de plus beau comme monument aux morts, comme ça, il faut le faire. J'étais content d'avoir mis ça, oui. Parce qu'apparemment, elle l'a chanté tout à fait sans y mettre de l'ironie. Il faut la chanter sérieusement, comme si, et voir un peu ce qu'il y a derrière les paroles, tout ce que ça représente comme sang versé, comme massacre, comme larmes, et surtout la marche nucléaire. Alors là, on n'imagine pas. J'avais oublié ça. Je ne l'avais pas entendu depuis quelque temps.
Comment elle est venue, cette chanson?
Elle jouait ma première pièce, l'aide-mémoire, à l'atelier. Et un jour, elle m'a dit qu'elle avait envie de chanter. Je lui ai dit, je vais vous écrire des chansons. Elle a pris des leçons de chant. Oui, elle a pris des leçons de chant. Je suis allé avec elle. Son frère a fait la musique. Ça a fait très, très sérieusement. Ça a pris des mois. Et elle n'a fait que ces deux faces. C'était un petit 45 tours, elle n'a fait que ça.
On regrette ce qu'il y a un 33.
Oui, c'est vrai.
Franchement.
C'est vrai, mais c'était une... Enfin, moi, j'étais, comme beaucoup de gens, très, très épris et très, très amoureux, je peux le dire, de Delphine Seyrig, sans qu'il y ait entre nous la moindre suspicion. Mais elle avait un charme irrésistible. Nous l'avons perdue très tôt d'un cancer. Et je me rappelle avec Samy Frey, qui vivait avec elle, nous avons pleuré dans les bras l'un de l'autre à son enterrement. Et chaque fois que je pense à elle, même en ce moment-là, j'ai la gorge serrée. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé au départ, parce que nous avons beaucoup travaillé ensemble. Je l'ai présentée à Buñuel, elle a tourné dans le Chambre discret de la bourgeoisie, dans la Voie lactée, etc. Et on a fait pas mal d'autres choses ensemble, et puis voilà, elle nous a comme ça brusquement et très injustement quittés.
Ouais. En matière de chansons, on se rappellera aussi que elle avait enregistré une très très belle version des conseils de la Fée des Lilas de Peau d'Âne de Jacques Demy, qui n'est pas dans le film, parce que Demy ne voulait pas entendre ses acteurs chanter, lui, mais la version existe et elle est magnifique.
Elle était merveilleuse en Peau d'Âne.
Merveilleuse en Peau d'Âne, avec ses robes différentes, son téléphone, son hélicoptère, enfin.
Son hélicoptère.
Bien sûr. Et Jean Marais à ses bras, donc franchement, c'était formidable. En 1975, Jean-Claude Carrière, vous avez écrit pour un critique, mais devenu cinéaste, Robert Benayoun, le scénario de Sérieux comme le plaisir, qui était un film très années 70.
Oui, très années 70, très Benayoun. Moi, j'ai jamais très très bien compris, bien qu'ayant essayé de le pousser dans ses retranchements, où il voulait en venir. Il y avait dedans une histoire probablement subrepticement homosexuelle.
Mais, un trio amoureux.
Oui, un trio amoureux dans lequel les deux garçons certainement... ont une attirance l'un pour l'autre, bien qu'il n'ait jamais voulu ni l'avouer, ni même l'indiquer. Benayoun était un remarquable critique, un membre du groupe surréaliste d'après-guerre. On avait beaucoup, je l'ai vu très très souvent, j'étais son exécuteur testamentaire, enfin, etc. Je l'ai beaucoup aimé et je l'ai essayé de lui donner un coup de main sur ce film.
Au centre de la distribution, il y a quand même Jane Birkin.
Il y a Jane Birkin, bien sûr.
Et qui est en liberté dans ce film libertaire, on peut
et
dire.
Et Gainsbourg venait nous voir sur le tournage de temps en temps. Comme il venait sur le tournage de la piscine, parce qu'il avait peur d'Alain Delon.
Oui, il paraît. Il paraît qu'il avait peur de la concurrence masculine d'Alain Delon.
Voilà. Il y avait de quoi avoir peur.
Oui, c'est pas faux. Alors, il se trouve que la musique du film, c'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui, la musique du film de Robert Benayoun avait été écrite par Michel Berger. Oui. Très belle musique. Ouais. Et on a retrouvé cette archive sonore dans laquelle on entend Michel Berger et France Gall, parce que Michel Berger a souhaité poser des mots après le film sur cette musique écrite pour Sérieux comme le plaisir. On écoute tout de suite.
On va faire une chanson que personne n'entendra jamais, qui est la chanson qu'on aime le plus de toutes.
Voilà, c'est super.
Parce que c'est la musique d'un film, et comme ça a été la musique d'un film, on s'est jamais servi des paroles, on ne sera jamais une chanson.
Et voici maintenant en exclusivité.
Dégoûter de l'amour, dégoûter de la vie. Je ne jamais sans l'eau, la tempête m'envahit. La tempête m'envahit. De la vie. Je deviens sourd sans mes vrais amis. Nous n'avons pas d'amis. Comme tu dis, je ne joue plus le jeu, je ne cherche plus celle que j'aime. Pour celle qui tombe sous mes lois, je suis d'accord. De la vie. Je sais que la musique c'était plus que l'envie. Mais pour la jouer à qui? À qui? L'amour n'est plus un jeu, elle sait être fidèle. Si c'est elle qui tombe sous mes lois, je suis d'accord.
Jean-Claude Carrière, on voit bien en lisant le casting que Sérieux comme le plaisir, c'est un film de critique de cinéma, parce qu'on y retrouve Lonsdale, Jean-Luc Bidault, Spiesser, Dubillard, Pierre Etex, Serge Gainsbourg, Raymond Bussière, Marc Dulicourt, Isabelle Huppert, Francis Perrin, Jacques Villeray et Jean-Claude Carrière.
Oui, oui, oui.
Vous êtes au générique.
Je joue avec Pierre Etex, nous faisons un couple qui veut évoquer Laurel et Hardy. Ce qui nous est arrivé à plusieurs reprises. Oui.
Vous faites lequel ?
J'écoutais la chanson et je me disais que la musique, qu'elle soit de film ou qu'elle ne soit pas de film, suit vraiment toutes les époques. Enfin, on peut presque calquer une époque avec cette musique-là. Vous voyez, on ne se rend pas compte quand on le fait. Bien sûr, on vit dans l'époque aujourd'hui, par exemple. Nous ne savons pas ce que sera la musique de demain, nous n'en avons aucune idée. Mais sans le vouloir et sans le savoir, c'est là qu'on fait les meilleures choses. Quand on n'essaie pas d'être à la mode, vous voyez. Et bien quand on y est quand même.
Merveilleuse transition, merci Jean-Claude Carrière, parce que nous allons écouter ce qu'il me semble être une tentative par Michel Portal de, non pas de reconstitution, mais d'évocation de ce que pouvait être éventuellement la musique qu'on écoutait, enfin qu'on entendait, qu'on faisait au XVIe siècle en France, dans le fin fond de la province. Voilà, on écoute tout de suite cette BO de Michel Portal, on y revient après. Vous êtes bien sur France Inter, vous avez raison et vous écoutez Ciné qui chante aujourd'hui. Notre invité, notre programmateur musical, c'est le conteur Jean-Claude Carrière. Et avec lui, nous écoutions à l'instant la BO du film de Daniel Vigne, Le Retour de Martin Guerre en 1982, écrite donc par Michel Portal. Cette musique nous vient presque d'un tableau de Bruegel, me disiez-vous, Jean-Claude Carrière.
Oui, on pourrait se mettre à danser en sabots autour
c'est ça, une sorte de bourré
autour d'un mouton à la broche, oui. Mais je voudrais dire un mot de Michel Portal parce que il est tout à fait exceptionnel dans sa manière de travailler. D'abord, il voit le film avant de mettre évidemment toute espèce de musique. Ensuite, on va chez lui, et je l'ai fait plusieurs fois pour d'autres films. Chez lui, c'est un capharnaüm extraordinaire avec tous les instruments possibles, pas seulement des instruments de musique, mais des instruments pour faire du bruit. Et avant toute chose, il cherche un son. Il cherche un son qui corresponde. Par exemple, là, il y a une espèce de corne de j'entends. Je suis sûr qu'il a commencé par ça. Et il ne commence pas par des notes ou par une mélodie ou par. Non, il commence par des sons. Il cherche des sons qui correspondent pour lui dans sa tête et dans son cœur, qui correspondent aux images qu'il a vues du film. Et à partir de là, peu à peu, il se met au travail sur les mélodies. Ça, c'est une façon tout à fait... tout ce que j'ai vu faire au cinéma, c'était pas seulement au cinéma, mais c'était magnifique. Je me rappelle un jour chez lui, ça je le raconte, ça n'a rien à voir avec le cinéma, il devait jouer quelques temps plus tard un concerto de Mozart, je ne sais plus lequel, à la clarinette. Il m'a dit, écoute, aide-moi parce que j'ai le choix entre trois clarinettes. Je vais te jouer ça avec les trois clarinettes, dis-moi laquelle je dois choisir. Pour rendre compte. Et c'est vrai que le son et la musique changent selon l'instrument.
Bien sûr.
Selon l'instrument. Ouais. Alors, il y en a une qui trouvait trop, elle est trop sentimentale, celle-là. Elle va vers le dégueulis un peu, elle va vers le sanglot, elle va vers le... L'autre, au contraire, elle est très... Mais elle est trop âpre, elle est trop... Il faut trouver... C'est formidable d'avoir avec un musicien ce genre de dialogue, vous voyez, ce que nous cherchons, nous, dans des mots, dans des images et dans l'alliance des mots et des images, il le cherche, lui, dans l'alliance entre des mélodies et des sons. Ça, c'est tout à fait... Oui, il est formidable, Michel, moi, je l'aime beaucoup.
Nous allons maintenant nous télétransporter en 2017, c'est-à-dire juste hier, avec un film de Philippe Garrel, dont vous avez écrit le scénario, L'amant d'un jour. Très très beau film de Philippe Garrel. Et la musique était composée...
J'ai l'avantage de travailler avec le père et le fils.
C'est ça.
J'ai fait plusieurs films avec Philippe et en ce moment je travaille avec Louis.
Mais c'est une belle dynastie, hein, si on y ajoute le grand-père, ça fait pour le cinéma français, Boris, exactement, une très très belle dynastie.
Et malheureusement, pour l'instant, Louis n'a pas de fils, il faut qu'il s'y mette, il faut que je le lui dise.
Mais aussi Esther, sa sœur,
Esther, actrice, bien sûr.
Qui pourrait aussi.
Il n'y a pas forcément que des hommes.
Mais non, ce serait pour être une façon de faire évoluer la dynastie, bien sûr. La BO de ce film était composée par Jean-Louis Aubert. Grand musicien, chanteur, et les paroles, alors là c'est pas vous, les paroles ne sont pas de vous, mais elles sont de Michel Houellebecq, très très étonnamment, parce que Michel Houellebecq a travaillé avec Jean-Louis Aubert sur un album, ça donne un très beau résultat, et la BO du film en était aussi, s'en faisait l'écho de cette collaboration Aubert-Houellebecq. On écoute tout de suite.
Tu le dis pas à papa, Jean-Louis, tu le diras pas à papa.
Comment tu veux que je gâte ça pour moi, là? C'est pas vraiment anecdotique ce que je viens de voir.
Mais je te promets, je recommencerai plus.
Est-ce que je veux que tu me dises, c'est que tu vas tout faire pour reprendre goût à la vie.
Oui.
D'accord?
Oui.
Hein? Tu vas recommencer à avoir des gens, avoir des amis, avoir des garçons. Tu vas écouter mes conseils, d'accord? Tu vas sortir avec moi? Tu me jures? Oui.
Coucou. Ça va, vous deux?
Ouais, ça va, et toi?
Ça va. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Mathéo qui téléphone?
On sait rien, papa. Ça se trouve, c'est même pas lui.
Lorsqu'il faudra quitter ce monde, ce soir en ta présence, fais qu'en mes ultimes secondes, je te regarde avec confiance, tendre animal au sein troublant que je tiens au creux de mes paumes. Je ferme les yeux, ton corps blanc est la limite du royaume. Et puis le grand reflux du sang, la condamnation essentielle, la vie qui s'en va en riant, remplir des entités nouvelles, la vie n'a pas longtemps, la fin de journée est si belle.
Jean-Claude Carrière, c'est une collaboration qui continue avec Philippe Garrel.
Ah oui, avec le père et le fils, oui, bien sûr.
Avec les deux.
Oui, oui. Philippe, on a écrit un long métrage qu'il va tourner cet automne, plus un sketch dans un film qu'il va tourner l'année prochaine. Et avec Louis, nous achevons le montage d'un film que nous avons écrit ensemble, qui s'appelle L'homme fidèle, et qui va sortir, je pense, vers la fin de l'année ou au début de l'année prochaine.
Alors nous passons maintenant à un autre musicien, grand musicien, compositeur de BO français, qui s'appelle Michel Magne. Et il se trouve que il avait écrit pour un film que vous connaissez plutôt bien, Belle de jour de Louise Buñuel. Il avait écrit une musique. Et puis cette musique n'est pas dans le film.
Mais on va... Non, dans aucun film de Buñuel il n'y a de la musique.
C'est ce que je voulais vous faire dire. On va écouter.
C'est ça qui est très reposant.
Les notes de Michel Magne, et on en reparle après.
Bonjour Séverine, je suis désolé de vous déranger.
Vous vouliez voir Pierre?
Un moment, oui.
Vous savez, il ne parle toujours pas. Il est...
Je sais, oui. Je suis désolé de ne pas être venu plus tôt. Vous savez, toutes les films que j'ai pour Pierre, mais j'étais en voyage. C'est une jolie robe. On dirait une collégienne précoce.
Qu'est-ce que vous voulez dire à Pierre?
Tout ce que je sais de vous.
Quoi?
Calmez-vous. Mais vous savez, maintenant, il se voit paralysé, entièrement à votre charge. Il vous donne beaucoup de mal, il en a honte, parce qu'il vous croit pur. C'est pour ça que je veux lui parler. Tout lui dire. Il lui fera sûrement de la peine, mais je crois que c'est un service à lui rendre. Qui pourrait dire après ça que je suis un homme cruel? Conduisez-moi, s'il vous plaît.
Il est là.
Vous voulez assister à notre conversation? Bonjour, Pierre.
Jean-Claude Carrière, nous interrompons assez vite la musique écrite par Michel Mann, parce que effectivement, si les mots que nous venons entendre dans la bouche de Deneuve et de Piccoli sont bien de vous, par contre, effectivement, il n'y a pas de musique dans le film.
Non, Buñuel ne mettait jamais une musique dans ses films, sauf quand il y avait, comme dans Tristana, Catherine Deneuve qui joue du piano, là bien sûr, quand cette musique est justifiée. Il n'aimait pas l'idée qu'il y ait un orchestre qui suive les personnages partout pour commenter leurs actions et leurs sentiments. Mais il n'aimait pas cette... Dans tous les films que nous avons faits, il n'y a pas une note de musique, sauf celle qui est à l'écran, disons.
Mais alors pourquoi cette commande à Michel Mann? C'est étrange, quand même.
Ça, c'est pas lui qui l'a fait,
c'est pas Buñuel qui a commandé.
Non, c'est sûrement les frères
Hakim. Un délire de producteur.
Oui, sûrement.
Mais enfin voilà, c'est quand même assez... Ce qui met d'ailleurs Buñuel dans une place assez à part, parce que finalement, des cinéastes sans musique, il y en a très peu.
Oui. Alors que, étrangement, dans le groupe surréaliste, il était le seul amateur de musique et connaisseur de musique classique. Ouais. Par la suite, il est devenu sourd, c'est aussi une des raisons, à peu près sourd, une des raisons pour lesquelles il n'en mettait plus, mais par exemple, il a mené le groupe surréaliste à l'opéra. Au grand dépit et à la grande colère de Breton.
Ah oui.
Qui est sorti furieux d'une représentation de Louise un jour en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de soupe? L'air de la soupe, vous savez.
Bien sûr.
Et il est parti furieux.
Abordons maintenant un autre de vos, je dirais, de vos grands complices, je crois, d'une très très belle collaboration avec lui, Pierre Etex, Le Soupirant, 1963. Et là, vous avez bien composé une chanson pour le film.
Une chanson parodique, oui.
Une chanson parodique, parce que le héros du film...
Assez parodique.
Oui, quand même. Oui. Le héros du film, ce soupirant, est chez lui et il est en train de regarder la télévision.
Il est en train de regarder... Non, il n'est pas chez lui.
Il
est chez une amie qui veut le séduire.
Oui.
Et il est tout à coup... la télévision s'allume.
Voilà.
Il y a un visage de femme qui apparaît, une chanteuse qui chante. Et il est totalement, mais bloqué, comme ça. Fasciné comme par un serpent. Tandis que l'autre femme essaie de le distraire.
En lui servant du thé,
il se passe plein de choses.
Ouais, voilà. Et il est tellement subjugué qu'il finit par mettre le lait dans le sucrier, enfin, etc. Voilà.
Alors, c'est celle qui chante... À l'image, c'était une comédienne qui est toujours là, qui s'appelle France Arnel, qui était une de nos amies, qui l'est toujours. Mais sa voix est celle de Béatrice Arnac.
Vous êtes parfait. Vous dites tout ce que j'aurais pu dire, vous le dites, et c'est très très bien dans votre bouche, et bien mieux, parce que vous y étiez. Voilà, donc effectivement...
Mais au moins, c'est garanti.
Voilà, vous y étiez, vous pouvez le dire. Alors, donc on va écouter...
C'est une chanson qui s'adresse directement les yeux dans les
exactement.
Yeux à quelqu'un, en lui disant, sous une forme particulière, je t'aime, et qui va déclencher toute la suite.
Il va le prendre pour lui.
Il va le prendre pour lui, vraiment. C'est la télévision qui lui parle.
C'est ça, et d'ailleurs, on ne voit plus à l'image.
Une apparition presque religieuse, oui, c'est presque comme à Lourdes.
Exactement. Et d'ailleurs, à l'image, on ne voit plus le cadre du poste de télé pour bien dire qu'elle est.
Ils sont tous les deux en train de se parler. De son visage.
Ouais. C'est étonnant. Alors, on écoute vraiment l'extrait et la chanson dans l'extrait avec, vous allez entendre des bruits, il répond, etc. Et puis, vous allez entendre la fin de la scène où, une fois la chanson à la télévision terminée, l'émission de télé continue, et là vous allez entendre un personnage. Je vous le laisse découvrir.
attendait comme on attend l'aurore. D'où viens-tu? Je l'ignore. Où vas-tu? Je le sais. J'avais peur, j'avais froid. Je n'étais que souffrance, seule dans le silence. Mon rêve, c'était toi. Toi, oh toi, l'amour. Toi, oh toi, l'amour.
Encore un peu de thé ?
Toi que je cherchais, comme on cherche fortune, ma chevelure de lune, je te la réservais. Et mes
Léo,
yeux que tu vois,
non,
et mes épaules nues, et mes lèvres tendues, je les gardais pour toi. Tout entière, prisonnière.
Je vois quelque chose.
Prisonnière de notre volupté. Je murmure ma voix, j'affaiblis les lumières, je te serai légère, endormie près de toi. Toi, oh toi. L'amour, toi, oh toi, l'amour, toi.
Nous allons maintenant aborder une question malheureusement plus importante et qui nous intéresse tous au premier chef, la pollution atmosphérique. Afin de ne rien négliger des différents dangers que représente aujourd'hui la pollution atmosphérique et des remèdes que la science moderne est susceptible d'y apporter,
Jean-Claude Carrière.
Déjà en 63,
oui.
On parlait de la pollution.
Vous moquiez des écolos en 63, parce que c'est vous qu'on entend.
C'est moi, c'est ma voix.
Affublé d'une drôle de moustache.
Une moustache, de lunettes, je crois.
Oui, des lunettes également. Vous avez raison. Vous avez raison. Oui, oui.
Parce que je passais à la télévision, donc, après cette chanson.
Après cette chanson, avec un léger hiatus, en fait, dans le programme. Un léger hiatus. Je ne saurais trop conseiller à nos auditeurs de voir, de toute façon, le film de Pierre Etex, Le Soupirant, et de voir cette scène en particulier. Maintenant, on peut enfin voir en DVD, donc revoir les films de Pierre Etex.
Oui, oui, oui,
ils ont
sûr,
été longtemps, bien, hélas, bien, invisibles. Ouais. Il y a un très beau coffret.
Oh, le coffret est magnifique. Magnifique. Oui, il avait eu le prix du coffret de l'année, d'ailleurs.
Exactement. Ouais. Avec la belle filmographie, courte, mais très très belle.
Mais il n'a travaillé que 8 ans au cinéma. Tout ce qu'on a fait, on l'a fait en 8 ans. Ça veut dire qu'on a bossé, mais vraiment, comme des fous.
Votre ultime, non pas choix, mais notre ultime choix pour vous, Jean-Claude Carrière, ce sera une chanson assez méconnue qui s'appelle « Prends-moi Matelot ». Elle est extraite de la BO de Borsalino de Jacques Deray. Le scénario de Borsalino étant dû aux plumes convergentes et groupées quand même de Janco, Jacques Deray, Claude Sautet et Jean-Claude Carrière.
Oui, Janco et Claude Sautet avaient fait une première version.
Ouais.
qui reposait sur les exploits de Carbone et Spirito, qui étaient deux personnages historiques de Marseille.
Bien sûr.
Et ils m'ont passé le bébé et j'ai écrit l'autre version.
Et c'est Claude Bolling qui a écrit la musique.
Avec Jacques Doré.
Oui. Voilà.
Et vous avez très bon.
Et vous avez posé vos mots sur la musique de Claude Bolling,
qui est un grand jazzman.
Grand jazzman, bien sûr. On écoute ce Prends-moi Matelot.
Depuis longtemps, je n'ai personne qui m'attend. Tous mes amours sont des passants. Pour m'en aller, il me suffit d'un mot. Prends-moi, matelot. Je n'aime pas mes souvenirs. Je passe ma vie à mentir. Si partir c'est un peu mourir, vive la mer et vive les bateaux. Prends-moi, matelot. Depuis le temps je n'ai plus rien à moi. J'ai tout laissé loin de là. Mon cœur et ma jeunesse, mes seules richesses. Je suis ici, je suis d'ailleurs. Quelque part j'ai perdu mon cœur. L'idée que j'aime bonheur, c'est de glisser, glisser sans fin sur l'eau. Prends-moi, matelot.
Prends-moi, matelot. Parole Jean-Claude Carrière, musique Claude Bolling, et c'est Michel Bach qui a interprété cette version.
Il fallait évidemment faire comme une chanson d'époque,
bien sûr,
que ça puisse passer pour une chanson des années 30, voilà, dans le style qu'on appelait à l'époque réaliste, et qui ne l'était pas du tout.
C'est ce que vous avez fait, bien entendu, Jean-Claude Carrière. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté cette promenade musicale en notre compagnie, qui nous a permis de revisiter aussi une partie de votre très très riche carrière. Et puis, on est impatient de découvrir de nouvelles chansons de vous pour, je ne sais pas,
dans le film de Louis Garrel, il n'y en a pas.
Bon, mais il y en aura d'autres, certainement ailleurs, je n'en doute pas.
J'ai pas réussi à en rendre une.
Merci Jean-Claude. Merci encore Jean-Claude Carrière, pardon. Merci à vous. Cette émission a été préparée, refrains et couplets par Margot Page, Mathilde Verfailly avec Juliette Beza. Elle a été réalisée par David Jacoboviez, avec aux manettes de notre studio Mathias Alléon et Guillaume Roux. Merci enfin à notre programmateur musical Thierry Dupin. On reste en contact via le podcast et franceinter.fr, bien évidemment. Après les infos, vous retrouverez Nagui, sa bande et son best-of. Et nous, on se donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, en compagnie d'un nouvel invité. Tenez, indice.
Cet homme a un cerveau bâti comme un entonnoir. Il sait énormément de choses, il a envie de tout dire, mais en même temps, donc ça bouchonne et on récupère que des bribes. Mais quelles bribes ?
À demain.